Bonjour et bienvenue dans l'univers captivant de la plasturgie avec le podcast du Salon FIP, le salon de l'innovation et de la plasturgie, qui aura lieu du 4 au 7 juin prochain à Lyon Eurexpo. Ici Steven Delbeau, prêt à vous faire découvrir les coulisses de l'industrie des plastiques et des composites à travers des rencontres exclusives. Dans chaque épisode, nous invitons un acteur clé de la plasturgie. Décideurs, entrepreneurs et même journalistes, ils viendront partager leurs expériences, leurs défis et leurs perspectives sur ce secteur en pleine transformation. Attendez-vous à des discussions riches, à rebours des idées préconçues et des simplifications excessives. Nous irons au cœur des enjeux tout en gardant un œil sur l'impact environnemental et les innovations durables. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à rencontrer ceux qui font bouger la plasturgie. C'est parti pour une nouvelle interview passionnante de notre podcast. Et cette semaine, j'accueille Henri Saporta, directeur des rédactions d'Emballage Magazine et de Plastique et Caoutchouc Magazine. Bonjour Henri.
Bonjour Steven.
Eh bien, ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de notre podcast. Peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous parler un peu de votre rôle au sein de la rédaction des deux journaux que vous dirigez, et puis peut-être aussi nous dire un peu ce qu'ils traitent et puis quel est le dispositif un peu rédactionnel qu'il y a derrière.
Alors, je suis journaliste de formation. J'ai fait une école qui s'appelle l'Institut pratique de journalisme. Et je suis journaliste depuis une trentaine d'années. Et j'ai découvert l'univers du plastique par le biais de l'emballage, parce que l'emballage utilise les emballages sont constitués de tous les matériaux, dont le plastique. Et donc, pour le plastique, l'emballage est le premier débouché. Donc, c'est le lien entre ces deux publications est tout à fait naturel. Alors, le rôle d'un directeur de la rédaction dans la presse professionnelle, c'est un rôle assez classique dans la presse, c'est l'animation de l'équipe, les choix éditoriaux et l'animation et l'articulation de l'activité, du suivi de l'actualité entre le magazine et le web. Aujourd'hui, les métiers de la presse traversent une révolution profonde avec le web, et donc un titre comme Emballage Magazine est aujourd'hui quotidien sur le web, tandis que Plastique et Caoutchouc Magazine est hebdomadaire. Et donc il faut vraiment organiser tout le suivi pour pouvoir tenir le rythme et ces différents rythmes et les synchroniser.
Qu'est-ce qui finalement vous a attiré dans la plasturgie? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit même si effectivement j'ai bien compris le lien entre emballage et puis plastique, composite, caoutchouc, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez décidé de vous spécialiser dans ce secteur-là en fait de l'industrie?
Alors déjà, quand on est journaliste et qu'on fait une école, on n'est pas vraiment formé à ce qu'on appelle la presse professionnelle. C'est quelque chose qu'on découvre finalement par le biais des offres d'emploi et des postes qui se proposent. Pour ma part, c'est le goût de l'industrie qui m'a conduit vers le plastique, et c'est de rencontrer des entrepreneurs, de visiter des usines, et de découvrir des technologies. Et à ce titre, la plasturgie est une industrie moderne, récente, qui est vraiment née après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une industrie qui permet de fabriquer des produits à la demande, en quelque sorte. Et quand, s'il fallait plutôt comparer cette industrie avec l'industrie verrière, par exemple, ou l'industrie du papier carton, où on est dans une configuration tout à fait différente, parce que le verre et le papier carton sont ce qu'on appelle des industries lourdes. Dans la plasturgie, il y a la pétrochimie qui est dans l'industrie lourde, mais après on est dans l'industrie de la transformation avec énormément d'équipements très très polyvalents et qui permettent d'avoir des productions légères, mais très adaptées à l'évolution du marché. Ce sont des exemples et des facteurs comme ça qui m'ont conduit à m'intéresser à cette industrie.
Intéressé un peu par la complexité du secteur, en fait.
La complexité, sa richesse et la capacité, avec la plasturgie, évidemment, de s'intéresser aussi à la chimie des matériaux, puisque dans le plastique, on parle beaucoup, évidemment, de polymères, de synthèse. Et être dans la presse professionnelle, c'est aussi s'intéresser à l'histoire des technologies, à l'histoire des matériaux et à l'histoire des inventions.
Alors depuis début 2022, le site Plastique et Caoutchouc fait partie du site de l'Unusine Nouvelle. Quel retour d'expérience vous pouvez nous faire sur ce nouveau dispositif éditorial?
Alors, c'est un projet extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nos publications sur le web sont perçues par nos lecteurs par différents canaux. Il n'échappe à personne aujourd'hui que Google est devenu un canal extrêmement important. Et donc, le pôle industrie organisé autour de l'usine Nouvelle permet aujourd'hui d'avoir un référencement Google beaucoup plus puissant. Le premier retour d'expérience de cette intégration, c'est des articles aujourd'hui qui peuvent toucher un lectorat, un public, que l'on n'aurait pas forcément imaginé au début. Donc c'est surtout une ouverture sur un lectorat beaucoup plus large que cette intégration a produit.
Et pour l'usine nouvelle, c'est aussi un moyen d'aller toucher une expertise qu'il n'avait peut-être pas jusque-là.
Voilà, absolument. Donc ensuite, sur le plan pratique, les Plastique et Caoutchouc Magazine et Emballage Magazine sont devenus les fils d'actualité sectorielles de l'usine nouvelle. Donc pour le lecteur, il faut se référer à un ensemble d'entrées par des onglets, par des mots-clés, par des tags, enfin, tout ce vocabulaire nouveau qui permet de hiérarchiser et de retrouver l'information sur le site web.
Alors revenons maintenant au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire celui des plastiques. Je pense qu'il y a très peu de secteurs comme ça comment dire, dans lequel on peut avoir des avis aussi tranchés, aussi différents. On entend un peu tout et son contraire sur les plastiques. C'est assez difficile d'arriver à trouver des vérités. Et c'est du coup votre rôle de journaliste d'arriver à nous faire voir la part des choses, en fait. Quelles sont les grandes vérités, les fausses croyances autour des plastiques? S'il y en avait quelques-unes à mettre en avant.
Oui, ben Steven, c'est assez bien résumé. C'est-à-dire que, d'une façon, je pense, sans caricaturer, d'une façon générale, en France, il y a un problème de perception de l'industrie, un manque de connaissance de l'industrie. On compare souvent la France avec l'Allemagne. En Allemagne, être ingénieur, on l'écrit sur sa carte de visite et on l'écrit docteur, par exemple. En France, ça se fait peu. Dans cette perception, on va dire, contrastée de l'industrie, le plastique, depuis, on va dire, allez, une dizaine d'années, cumule à peu près tous les handicaps. Alors, peut-être que la première explication, c'est que on résume souvent le plastique aux seuls emballages, parce que, en tant que consommateur, c'est ce qu'on voit le plus. Donc, de tous les emballages, il y en a un qui synthétise à peu près tous les fantasmes, c'est le pot de yaourt en polystyrène, mais il y a aussi des bouteilles d'eau. Et quand on résume les plastiques à ces emballages, ce qu'on peut qualifier des produits à cycle court, voire très court, on oublie très vite les autres applications du plastique, ce qu'on peut aussi qualifier de plastique à cycle long. C'est les plastiques qu'on retrouve dans l'automobile, qu'on peut retrouver dans le bâtiment, que l'on peut retrouver dans les transports. Et ces plastiques, aujourd'hui, finalement, on les oublie. Et c'est là où il peut y avoir un peu d'incompréhension entre le discours des industriels et la perception du grand public.
Alors justement sur ces différents types de plastique, les plastiques à cycle court, les plastiques à cycle long, vous avez une vision globale de la filière par votre rôle. Pour vous, quels sont les marchés porteurs sur des applications concrètes, par exemple?
Alors, contrairement aux idées reçues, on voudrait aujourd'hui que les plastiques à usage unique, donc les plastiques à cycle court que l'on trouve dans l'emballage, soient condamnés. Alors, c'est une perception qui est extrêmement complexe parce que la réglementation aujourd'hui pousse à croire que les plastiques de l'emballage vont être amenés à disparaître. En réalité, tous les chiffres sont assez clairs. L'emballage en plastique est promis à une forte croissance. La raison est assez simple, c'est que la première fonctionnalité des emballages en plastique, c'est de conserver et de protéger les aliments. Or, dans beaucoup de zones géographiques, on va citer l'Asie et l'Afrique, mais aussi l'Amérique du Sud, il y a besoin d'emballage pour conserver les aliments, avec, on va dire, un grand besoin du côté de l'eau potable en particulier, et de tout le secteur des fruits et légumes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est tous les plastiques techniques. Et là, l'avenir des plastiques est directement lié à ce qu'on appelle aujourd'hui la décarbonation, c'est-à-dire la volonté et l'obligation pour les entreprises d'abaisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, les plastiques ont énormément d'atouts. Le premier atout, c'est la légèreté, bien sûr, hein. Ça permet de faire des voitures légères, des avions légers, des trains légers. Et le deuxième atout, c'est les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut créer des plastiques à la demande, avec des fonctionnalités à la demande, et par exemple pour obtenir des propriétés d'étanchéité, de barrière, et ainsi de suite. Donc les prévisions aujourd'hui, ben, ça serait plutôt que la production de plastique va tripler dans les années qui viennent. Donc, derrière ce chiffre, il y a un deuxième enjeu que l'on va aborder, qui est celui de la ressource. Est-ce que les plastiques de demain seront issus du pétrole, ou est-ce ils seront issus de ce qu'on appelle des ressources renouvelables, de l'agriculture, du maïs, et ainsi de suite. Donc, ce sont finalement deux enjeux qui sont corrélés, mais qui sont indépendants.
Est-ce qu'il y a une réussite dans votre carrière, est-ce qu'il y a une réussite industrielle marquante qui a vu le jour en fait grâce au plastique, sans les plastiques en fait cette réussite n'aurait pas pu voir le jour?
Oui, il y a une très belle réussite qui est une entreprise qui s'appelle Sibel. Sibel, ça veut dire à l'origine la société industrielle des emballages légers. Et l'histoire de Sibel commence avec Le Sieur, la marque d'huile. Et donc, c'est une entreprise française qui a développé la technologie de soufflage des bouteilles. À l'origine, c'était des bouteilles en PVC, le polychlorure de vinyle. Aujourd'hui, ce sont des bouteilles en polyéthylène terephthalate. Et cette entreprise, Sibel, eh bien, comme on disait à l'époque, a proposé et converti Coca-Cola. Et donc, Sibel a vendu des machines de soufflage aux États-Unis pour fabriquer les premières bouteilles de Coca-Cola en PET. C'est une réussite éclatante et aujourd'hui, Sibel est un acteur de référence dans ce domaine-là. On cite souvent un autre exemple qui celui-là est plus franco-français, mais qui est exemplaire, c'est la technologie des pots de yaourt en polystyrène avec l'invention d'un procédé, le formicide, qui permet de fabriquer des pots de yaourt à partir de ce qu'on appelle une feuille laitière. Alors, je dis que c'est franco-français parce que les pots de yaourt unitaires, c'est-à-dire des pots de yaourt de petite contenance, bon, c'est quasiment une particularité française. En Europe, on trouve plutôt des grands pots pour la famille. Et ces pots sont plutôt ce qu'on appelle préformés. Et ils sont souvent en polypropylène.
D'ailleurs, sur les pots en polystyrène, il me semble qu'une filière de recyclage est en train de voir le jour, en ce moment d'ailleurs.
Absolument. Donc aujourd'hui, la feuille de route pour les emballages, c'est le recyclage. Jusqu'à maintenant, la France était concentrée sur le recyclage des bouteilles. Et pour respecter la réglementation et se mettre en conformité avec la réglementation, il faut que tous les emballages soient recyclables d'ici 2030. Et donc, effectivement, la France et l'Europe ont mis en place une filière de recyclage des pots en polystyrène en boucle fermée. L'objectif, c'est qu'un pot de yaourt redevienne un pot de yaourt. Et là, on rentre dans les considérations techniques assez pointues, parce que pour pouvoir faire un emballage pour un produit alimentaire, il faut que le matériau soit apte au contact alimentaire. Et on comprend vite que si le matériau vient d'une filière de recyclage, donc c'est-à-dire du bac jaune dans lequel les Français mettent tous leurs emballages, il faut que le procédé de traitement de ce plastique soit conforme pour obtenir un matériau recyclé apte au contact alimentaire. Les premiers résultats sont attendus pour, on va dire, 2024-2025.
Alors justement, pour parler de l'année 2024, d'après vous, quelles seront les choses auxquelles on doit s'attendre, quelles sont les grandes dates qu'on doit retenir ou les événements de cette année 2024 qui seront importants pour la filière?
Alors, à mon sens, il faut se fixer un agenda réglementaire, orienté et tiré par la réglementation. Pour ma part, moi, je verrais trois grands niveaux, un niveau français, un niveau européen et un niveau mondial. Pour la France, il y a l'application de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc cette loi, elle fixe pas mal d'applications, elle fixe pas mal d'obligations avec des interdictions et des nouvelles obligations. Et il y a beaucoup de sujets qu'on a vus apparaître au niveau du grand public, donc par exemple les fameux emballages en plastique pour les fruits et légumes, mais aussi la consigne pour recyclage. Et finalement, le recyclage des produits yaourt, c'est aussi lié à cette loi AGEC. Mais cette loi AGEC, aujourd'hui, elle doit prendre en compte un futur règlement. Donc toute la profession aujourd'hui travaille avec quatre lettres, le PPWR, c'est-à-dire en anglais Packaging et Packaging Waste Regulation, avec un accent formidable. Et donc c'est un projet de règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Alors, je vais être un tout petit peu technique, mais on parle bien d'un règlement. Donc ça veut dire que c'est un texte européen qui va s'appliquer dans les droits nationaux sans transposition. C'est une évolution très importante par rapport à la précédente réglementation, qui était une directive dont l'origine se trouve dès 1994, hein, quand même. Donc c'était la directive 94-62-CE sur les emballages et les déchets d'emballage. Ce règlement PPWR, il fixe une feuille de route qui s'articule en trois points. Donc tout le monde connaît ces trois points. Ce sont les trois R de la réduction, du réemploi et du recyclage. Et parmi les trois R, on va dire que le recyclage et la réduction concernent directement les plastiques. Et il faut ajouter à ce niveau européen un troisième niveau mondial. Donc depuis maintenant plusieurs mois, nous avons un traité international sur la pollution plastique qui est en cours de négociation. Le troisième round a eu lieu à Nairobi au mois de novembre. Et aujourd'hui, donc le 30 novembre, nous avons la COP 28 qui s'ouvre à Dubaï. Ce qui fait que la feuille de route du plastique aujourd'hui, elle est tiraillée entre des objectifs de réduction et des perspectives d'interdiction. Parce que dans le traité international sur la pollution plastique, il est beaucoup question d'interdiction. Or, on vient de voir que les plastiques étaient promis à une forte croissance. Alors, comment on peut résumer cette contradiction? Ben, pour beaucoup de professionnels, finalement, on est face à une injonction contradictoire. Comment on peut envisager la disparition d'un matériau, crédité de fort taux de croissance. Alors, quelle est la solution? Pour beaucoup de professionnels, c'est le développement dans les pays tels que l'Asie, le continent asiatique et l'Afrique, de filières de tri, de collecte et de recyclage pour endiguer cette pollution, pollution qui est effectivement très préoccupante. Donc, l'enjeu essentiel pour les plastiques, mais pour tous les matériaux d'emballage, c'est la mise en place de structures de traitement des déchets autres que la décharge à ciel ouvert.
C'est tout l'enjeu justement, enfin je veux dire, ça rappelle bien l'enjeu, pardon, qui pèse aujourd'hui sur la filière, c'est-à-dire à la fois la nécessité de décarboner, à la fois la nécessité, alors même si effectivement on a bien compris hein, que les plastiques étaient une manière aussi de décarboner sur certains de leurs usages. La nécessité de produire moins de plastique, la nécessité d'en produire plus parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte. On est un peu dans la quadrature du cercle, en fait.
Absolument, c'est quelque chose de très particulier parce que ça entraîne chez les industriels des questions assez étranges parce que, par exemple, la contradiction qui est souvent mise en avant, c'est comment on peut développer une filière de recyclage si le matériau que l'on veut recycler est promis à disparaître. Comment investir des dizaines de millions d'euros dans une usine de recyclage si demain le matériau se raréfie. La loi AGEC, par exemple, prévoit une division par deux du nombre de bouteilles en Europe, en France. Donc, si on investit dans le recyclage des bouteilles, ce n'est pas pour ensuite avoir un flux qui se raréfie. Voilà un exemple. Pour moi, il y a un exemple aujourd'hui d'actualité qui est assez symptomatique, c'est ce qui se passe à Mayotte. Aujourd'hui, sur l'île de Mayotte, il y a une sécheresse qui fait qu'on ne peut plus alimenter la population en eau potable par le réseau. La solution, aujourd'hui, c'est d'importer par bateau des millions de bouteilles d'eau qui sont distribuées aux habitants de Mayotte. Et l'enjeu, là, maintenant, à très court terme, c'est de récupérer toutes ces bouteilles sur l'île pour les recycler en métropole. Et ça montre bien que face à la nécessité de livrer de l'eau potable à une population, eh bien, on ne connaît que l'emballage comme réponse. Alors, aujourd'hui, ce sont des bouteilles d'eau, mais des bouteilles d'eau d'1 litre, d'1,5 litre, de petite contenance. Mais les emballages en plastique permettent bien d'autres solutions. Il y a des grandes contenances avec ce qu'on appelle les grands récipients vrac. Ce sont ces fameux citernes en plastique entourées d'un grillage. On en voit beaucoup, beaucoup dans les jardins, par exemple, pour collecter les eaux de pluie. Il y a aussi les citernes souples. Ces citernes souples, aujourd'hui, sont en mesure de contenir l'équivalent d'une piscine olympique. Et on voit bien que, dans ce cas-là, les plastiques apparaissent toujours comme une partie de la solution, et réduire le plastique seulement à une pollution est très, très risqué. Parce qu'aujourd'hui, si on reprend cet exemple de Mayotte, comment livrer de l'eau potable sur une île? Il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens.
En fait, il faut revenir aux usages, quoi. C'est vraiment ça
Alors,
qui est le centre.
c'est le grand mot, Steven, c'est l'usage. Et donc, de revenir toujours aux fonctionnalités. Et souvent, quand on parle d'emballage, quand on parle de plastique, on oublie parfois de préciser que si on met ces produits-là sur le marché, eh bien, c'est parce qu'ils ont des usages, ils servent à quelque chose, ils sont des fonctionnalités. Souvent, donc, on dit que pour supprimer les emballages, il suffit de basculer au vrac, au réemploi, à la consigne. Mais pour développer ce qu'on appelle ces nouveaux usages, ben, il faut des emballages. Et le plastique, aujourd'hui, a des marchés importants qui s'ouvrent vers le réemploi. Alors, le réemploi peut se faire avec des bouteilles en verre. Souvent, on imagine que le réemploi, ce sont des bouteilles en verre. Mais l'exemple allemand montre qu'on peut réemployer, réutiliser des bouteilles en plastique, mais aussi des gobelets, pourquoi pas des barquettes. Donc, le plastique, comme les autres matériaux, mais le plastique répond aux différentes évolutions des tendances de consommation. Et en termes de réemploi, on voit tout de suite que le plastique a un avantage majeur, c'est qu'il est très résistant et résiste à la casse. Donc, par exemple, c'est très important dans la restauration rapide. Et si une chaîne comme McDonald's a fait le choix du plastique, c'est parce que, par exemple, les enfants sont parmi les grands amateurs de McDo, et donc avoir des emballages incassables et résistants, c'est une priorité.
Henri, comme vous le savez, on enregistre ce podcast dans le cadre de l'organisation du salon FIP, qui est dédié à la filière plasturgie. Selon vous, ce salon, qu'est-ce qu'il apporte finalement de supplémentaire ou de différent, ou qu'est-ce qu'il apporte tout court en fait à la filière?
Eh bien, je crois qu'on a tous vécu le confinement, on a tous vécu les réunions par Teams. Ce qu'amène un salon, c'est la rencontre. Et la rencontre, les discussions, l'échange, les conférences avec des intervenants à qui on peut poser une question en direct. Et donc, un salon, c'est l'interaction. Alors d'abord, ça, c'est sur le plan humain. Et ensuite, évidemment, un salon, c'est la possibilité de voir les équipements, d'assister à des démonstrations et de toucher et de pouvoir comprendre comment un produit fonctionne, comment une machine fonctionne et quelle est la promesse d'une technologie. Donc, le FIP, c'est le lieu de rencontre des professionnels de la plasturgie en France et en Europe.
J'imagine que vous immobiliserez la rédaction de Plastique et Caoutchouc et puis d'Emballage Magazine.
Alors, c'est un point important, Steven, parce qu'effectivement, la presse professionnelle s'organise en fonction de temps forts de la profession, et les salons sont des temps forts de la profession. Donc, quand on parlait au tout début de l'organisation du programme rédactionnel, de l'organisation des sujets, et qu'effectivement, on organise l'année 2024 pour Plastique et Caoutchouc en fonction du FIP pour pouvoir donner dans le numéro qui va sortir pour le salon toutes les grandes tendances du salon et pouvoir sur le web suivre toute l'actualité et les nouveautés des exposants.
Eh bien, c'est un bon moyen de boucler la boucle finalement. On revient au point de départ de notre entretien. Un grand merci Henri pour cet échange.
C'était un plaisir, Steven.
Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du FIT Podcast.